La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à tous. Bonjour Hugues Kiffer. Hugues, vous êtes directeur et programmateur du festival Marseille Jazz des 5 continents à Marseille depuis 2015. Le festival se déroule cette année du 7 au 23 juillet prochain. Il faut dire que le festival démarre dès le mois de juin, si j'ai bien lu le magnifique livret que vous avez édité pour l'occasion. Cette année, c'est magnifique, on pourra y revenir, mais j'ai compris pourquoi c'était aussi beau d'ailleurs. Cette année, le festival accueille une icône du jazz et de la musique, c'est Herbie Hancock, le pianiste Herbie Hancock, qui a fêté ses 82 ans cette année. J'ai regardé le livret, je l'ai bien parcouru, vous invitez... J'ai remarqué une quarantaine de têtes d'affiches, ce qui représente bien plus d'une centaine de musiciens en tout pendant toute la durée du festival. J'ai noté la présence de Diana Krall, mais également la percussionniste Anne Paseo et puis la pianiste Hiromi Uehara. Et il y en a bien d'autres. Et pour cela, j'invite les auditeurs à prendre le temps de lire ce livret qui est magnifique. Parce qu'il est très bien mis en page, il est très clair, il est très agréable à tenir en main et à lire, et il a été illustré par le grand artiste Jarre Trakandi. Bonjour Hugues.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Effectivement, Jarre Trakandi, peintre marseillais de grande renommée, de grand talent, est un fou de musique et de jazz en particulier, et depuis 2 ans, on a une collaboration intime. Où à chaque fois il arrive à exprimer ce qu'il ressent de cette musique de jazz, donc avec des formes et un talent incroyable. Et il y a des choses qu'il a fait cette année sur le visuel du festival qui sont simplement remarquables et qui expriment vraiment l'esprit de notre festival.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que il a très très bien travaillé. Mais j'ai aussi noté le nom d'Alice Chireux, la graphiste, qui a fait un excellent travail d'accompagnement de la création de Jarre Trakandi.
C'est notre petit secret, ça, de savoir un peu garder les personnes hyper compétentes et très talentueuses sans trop les présenter, mais en fait, on l'a dévoilé. Mais voilà. Et elle travaille, elle nous accompagne depuis pratiquement 10 ans.
Hugues, je vois que vous êtes très très bien accompagné et entouré dans cette équipe du festival. Combien de festivaliers attendez-vous ou espérez-vous accueillir cette année à Marseille? Et notez-vous, comme certains confrères le font, un changement dans les habitudes et le comportement des festivaliers, des spectateurs qui semblent, depuis l'après-Covid, prendre des décisions de fréquentation de salles de spectacle et de musique au dernier moment.
Alors, ce qu'on attend, comme festivalier l'année dernière, il faut le savoir, c'était une année record. 2021, bizarrement, en sortant des périodes de confinement et malgré le pass sanitaire et tous les débats que ça a engendré, il y avait une vraie volonté, même quelque chose d'assez éruptif et peut-être animal, pour retrouver cette force du moment de live. Et donc on a fait vraiment une année record en termes de remplissage et donc on est très content et ça fait à peu près... Pour nous, ça représente à peu près entre 20 et 25 000 festivaliers. Sur la période du festival, hein, on est plutôt sur 40, voire 45 000 sur l'ensemble des opérations qu'on fait. Vous avez parlé des 2 mois, voilà, ça représente à peu près ça. Donc cette année, on est à peu près dans les mêmes formats d'attente, entre 20 et 25 000 festivaliers, et avec effectivement ce questionnement, puisqu'on remarque que cet élan qu'on avait connu l'année dernière et qui était vraiment très spectaculaire et très fort pour nous, s'est transformé un petit peu, certainement dû à la situation générale en Europe et puis aussi au pouvoir d'achat et puis aussi peut-être un genre de retour de, voilà. Je ne sais pas de quoi d'ailleurs on est tous en train de se poser la question, mais effectivement on note qu'il y a une autre manière d'aborder les spectacles en live, avec des choses qui ne fonctionnent pas du tout et d'autres qui ont repris même plus que ça. Et c'est pas forcément dû qu'au pouvoir d'achat ou au prix des plats, c'est bizarre. Et voilà, il y a une vraie transformation qui s'est opérée et qu'on est tous en train d'essayer d'analyser, de comprendre. Et alors pour ça, on échange beaucoup. Enfin, pour ma part, je suis très fervent du partage d'informations et de l'échange avec mes camarades. Festival de jazz, bien sûr, hein. On est très proche de Jazz à Vienne, Marciac, Jean Lépin et autres, mais même d'autres types de festivals dans les réseaux, festivals de musique actuelle, hip-hop, électro et compagnie. Donc tout le monde est en train de se poser la question, de savoir comment et sur quels critères les gens vont réagir, mais par contre on voit et on sent qu'il y a une vraie transformation de la pratique des concerts, des festivals et du live.
Merci Hugo. Et si je comprends bien, il y a une vraie appétence et j'ai l'impression que enfin, le public a réellement envie de retrouver le contact avec les artistes, les interprètes. Mais des changements d'habitude pour lesquels on manque un peu de recul. La communication du festival est très très impressionnante parce qu'elle semble très efficace. En tout cas, elle se déploie sur un site internet qui est très chouette à parcourir. J'ai évoqué ce livret qui est très très bien réalisé, très agréable à lire également. Est-ce que vous avez une intervention particulière sur les réseaux sociaux pour essayer de toucher différemment des publics et toucher des publics que vous ne touchez pas à travers des supports de communication plus classiques qu'on a évoqués?
Oui, tout à fait. Il y a un espace de communication qui nous intéresse beaucoup, c'est la presse. Enfin, moi, je trouve, et l'histoire du festival le prouve, qu'on a un vrai vecteur d'information à travers la presse, qui est à la fois un support de la communication, de l'information brute, et aussi de l'opinion, de la tendance, de l'esprit du festival. Donc, la presse, c'est aussi un des éléments importants de notre communication. Mais les réseaux sociaux, alors, bizarrement, il y a deux moments qui se sont conjugués. Il y a cette idée de dire mince, il se passe quelque chose de ce point de vue-là. La pratique et les usages sont en train de se déporter vers ces formes nouvelles de consommation, de pratique, de lecture et de recherche d'information. Et donc, ben, allons-y, nous aussi, il n'y a pas de raison. Et puis, il s'est conjugué avec une deuxième nécessité, c'est cette réflexion qu'on a sur la limitation de l'impact sur le climat qu'on peut avoir à travers justement les impressions, à travers le papier, enfin l'utilisation du papier et d'autres types de supports de cyclage. Donc, on a essayé de réduire beaucoup tout ce qui est support papier. Et même si on a gardé la revue, qui est un des seuls éléments qui reste et qui porte vraiment l'esprit et la diversité du festival, mais on a vraiment voulu et baisser. Il n'y a plus de flyers, il y a moins d'affiches, il y a plus d'adhésifs, il y a plus de, on limite les bâches, voilà. Donc tous ces supports de print, je dirais, ont été réduits au profit d'une approche numérique, en fait, qui n'est pas non plus sans générer des déchets. D'ailleurs, c'est aussi un autre débat. Mais en tout cas, effectivement, on va de plus en plus vers là, avec donc des nouveaux contenus, nouveaux types de visuels, de rapports avec les personnes qui lisent, le lien avec les artistes aussi, qui utilisent beaucoup ces réseaux sociaux. Donc, on devient un médiateur aussi de la rencontre entre l'artiste et le public qui se fait en direct, parfois, et parfois beaucoup plus efficacement que quand c'est nous qui faisons les choses. Donc tout ça est aussi à apprendre. Il y a une vraie transformation de fond aussi à ce niveau-là. On parlait des pratiques, des usages et de la communication, et ça fait beaucoup.
Et je pourrais aller plus loin sur cette remarque. Donc, vous avez évoqué la presse. Il s'agissait de la presse spécialisée et la presse quotidienne. Peut-être, vous nous préciserez ça, Hugues. Mais est-ce que les réseaux sociaux correspondent à des tranches d'âge? Est-ce que vous arrivez au festival à déterminer quel réseau social correspond à quel type de public ou quelle tranche d'âge?
Alors, là encore, on est, et je pense pas trahir mes camarades, hein, on est tous un peu en train de chercher. parce que ça évolue à une vitesse incroyable et je pense pas qu'on ait les mêmes coupures que ce qu'on sait. On a des études, des évaluations directes, des choses comme ça. Enfin, il y a les algorithmes changent et c'est vraiment une évolution toute nouvelle. Donc on voit effectivement au départ la pratique était plus vers des gens jeunes qui allaient vers les réseaux sociaux et les réseaux sociaux particuliers avaient des tranches d'âge particulières. Mais maintenant c'est tellement multiplié et puis réparti que toutes les tranches d'âge utilisent les réseaux sociaux, alors pas tous les mêmes, mais ça évolue. On voit que Facebook a de moins en moins d'impact, même dans des tranches d'âge qui est utilisatrice, dans les personnes plutôt de notre cœur de cible, hein, qui était un cible, un public qui est au-delà de, enfin, 50 ans et plus, on va dire, et pour avoir la génération en dessous, que je vais partir à partir de 35 ans, faut aller sur d'autres types de supports, de messages, et ça change, parce qu'on était sur des réseaux sociaux, là, qui sont identifiés très clairement, hein, les 3 ou les 4. Et maintenant, se développe le mode de communication de la presse via le net, sur des blogs, sur des podcasts. Et là aussi, il y a un espace qui s'ouvre de pratiques nouvelles, avec un nouveau langage et une nouvelle façon d'aborder, de nouvelles personnes, et qui sont en train de eux-mêmes chercher leur public, donc qui se mettent là parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se fait. Même les grands organes de presse se mettent sur ces espaces-là. Et il y a quelque chose de très très intéressant à communiquer, mais enfin moi je trouve pas encore assez de recul pour voir vraiment le rapport entre ce type de communication et l'objectif qu'on a, même si nous on est une association, donc on n'a pas un but lucratif avéré. Enfin, on a le but lucratif de recouvrir toutes les dépenses qu'on fait bien sûr, mais on n'a pas de volonté de faire de profit à redistribuable auprès de nos actionnaires. Donc déjà ça. Mais voilà, l'impact économique de dire, bon voilà, si on met tel budget sur tel réseau social, ça nous permettra de toucher, donc qui générera tant de recettes. Ça, c'est quelque chose je crois qu'il n'y a personne à l'heure actuelle qui est capable de dire ce genre de choses. Dans d'autres secteurs, je pense qu'ils sont capables, mais nous, dans le spectacle vivant, en tout cas, c'est très, très, c'est en friche, quoi. C'est très nouveau, très, je pense pas qu'il y ait d'évaluation utile pour chacun et chacune qui puisse servir et qui est vraiment utile pour construire une économie là-dessus, quoi. Mais on avance et on s'y penche.
Merci, Hugues. Vous évoquez la question budgétaire. En vous écoutant, je me disais que cette obligation de suivre la démultiplication des réseaux sociaux peut-être génère dans les structures des coûts supplémentaires, des coûts
Je
financiers
vous confirme.
importants, oui, parce qu'il
Ouais.
faut
Non, non, je vous
travailler.
confirme, bien sûr.
À ce propos, donc, les partenaires principaux, les partenaires institutionnels du festival, c'est en premier lieu la ville de Marseille. Et comme partenaire institutionnel, il y a également la région, le département des Bouches-du-Rhône et la métropole. Et ça m'a surpris, je n'ai pas vu de logo du ministère de la Culture. Il y a une absence de suivi du côté du ministère de la Culture.
Oui, tout à fait. Depuis l'origine du festival, on n'a aucune aide du ministère, ni à travers le ministère directement, ni à travers les directions régionales. Maintenant, avec la création du CNM, il y a des lignes de crédit qui sont ouvertes où il faut répondre et tout ça. Nous, on va plutôt aller vers ça pour essayer de diversifier les recettes de notre festival, mais c'est effectivement, je pense que si l'État nous suit pas, mais ça il faudrait lui demander, parce que nous on aimerait bien qu'il nous suive, mais s'il nous suit pas, c'est parce qu'il pense qu'on est financé par d'autres que lui, et que du coup il se focalise sur ces festivals, en tout cas je parle pour la région, parce qu'on est quand même une région où il y a énormément de festivals de tous ordres d'ailleurs, et que bon, les budgets sont fléchés, enfin il y en a des énormes, comme moi je suis avignonnais, donc je sais ce que représente le Festival d'Avignon dans le cadre et ce qu'il représente pour le ministère. Voilà, il y a le Festival d'Avignon, le Festival d'Art Lyrique d'Aix, le Festival de Cannes, ce sont des monstres, les rencontres de la photo Arles, ce sont des festivals énormes qui font à côté de ça, nous, et avec notre mode économique, je pense qu'on ne passe pas dans les critères du ministère de la Culture, même si au CNM, il y a une écoute très forte sur justement cette idée que les festivals maintenant ont une place très très importante dans la diffusion de la culture.
Oui, je me permettais de faire cette remarque parce que ça m'a paru curieux. Mais comme vous le dites très justement, il y a énormément de festivals et pas des petits festivals dans la région sud. Mais c'est vrai que je me faisais cette remarque tout simplement parce que vous avez signé un certain nombre de chartes en matière environnementale, mais il y a aussi des engagements qui sont très forts et très précis et très précisément présentés dans le livret que j'ai lu avant notre entretien, notamment en matière d'éducation artistique et culturelle depuis 2021, avec une politique de gratuité qui est aussi remarquable, avec énormément de concerts, d'événements, de rencontres avec les artistes et avec les musiciens de jazz, totalement en entrée libre. Donc, c'est pour ça que je me faisais cette remarque.
Oui, non, mais c'est vrai que ça, c'est aussi l'évolution du festival, hein, que c'est l'histoire qui se tend vers ça et qui fait que ben voilà, des choses se construisent et se développent, quoi, qui n'était pas le cœur du festival, qui était un festival de diffusion au début, et puis petit à petit les choses se sont construites, agrégées, beaucoup par la coopération entre les acteurs culturels locaux et puis au-delà même. Mais enfin, c'est cette coopération qui fait qu'on a étendu notre territoire, extension du domaine de la lutte, disait un auteur français bien connu. Mais c'est un peu ça quand même l'idée. Et effectivement, on est très engagé sur certains points et avec des partenaires nouveaux et avec des façons de faire. Enfin, voilà, donc mais les engagements étaient pris assez tôt. On les avait moins dit. Je pense qu'en ce moment, il y a une volonté aussi du ministère de faire en sorte qu'on, enfin, on nous, pas oblige, mais enfin, on nous engage à dire tout ce qu'on fait. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, je pense que les festivals deviennent prescripteurs et on est tenu de. Voilà, il y a tout le message sur ce qu'on appelle les VSS, la violence sexuelle et sexiste, qui se développe. C'est des messages que les festivals portent en prévention sur justement les addictions aussi, sur bien sûr les développements durables et raisonnés. Et toutes les pratiques sur les déchets, sur l'alimentation, toutes ces choses-là, ce sont des messages qui sont portés par les festivals très fortement et maintenant on nous demande vraiment de le dire, pas simplement de le faire.
Oui, vous le faites, vous le dites, et les collectivités vous encouragent à suivre ces orientations qui sont fortes. Est-ce que
Exactement.
les collectivités vous ont soutenu et de quelle manière pendant la crise? Et en fait, la question que je me posais, c'était dans quelle situation financière, après 2 ans de difficultés importantes, le festival se trouve?
Alors, le festival, il est dans une situation d'équilibre. Les 2 ans de crise ont été plutôt bien gérés. On a été donc, enfin, je le rappelle parce qu'on est une association, donc on a encore une fois pas de but lucratif et que tout l'argent qu'on met, enfin, c'est pour ça que je ne sens pas directement un service public, mais d'une certaine manière, si. Et donc, on répond effectivement aux politiques culturelles des structures, des institutions locales pour aller justement développer des formes qui sont plutôt de l'ordre du service public. Et donc, pendant ces 2 ans, on peut dire que les institutions ont accompagné. Ça a été assez formidable ce qui s'est mis en place parce que aucune des institutions ne nous a lâchés à la hauteur de ce qu'on avait comme dépenses. Hein, bien sûr, on n'a pas, nous, on n'était pas dans le secteur privé, donc on n'a pas bénéficié de primes ou des fonds spéciaux dans les choses. On a eu le chômage partiel, mais surtout dans le cadre et c'est comme ça qu'on a pu fonctionner. Des subventions qui étaient allouées au festival, normalement, ils ont préservé ces subventions à hauteur de ce qu'on avait dépensé. Donc à chaque fois, c'était une collaboration budgétaire, là, pour le coup, avec une volonté de ne pas laisser tomber le festival. Et la ville de Marseille a été tout à fait à la hauteur et a suivi le festival. La région s'est positionnée très très tôt auprès des acteurs culturels et qui a été certainement une des institutions qui a été le plus présente auprès des acteurs culturels pendant la pandémie, nous a soutenus et pas lâchés et a fait l'intermédiaire même au niveau de l'État. Et puis le département et la métropole, de la même manière, ont tenu leurs engagements et ça c'était plutôt bien. Ça nous a permis d'avancer tranquillement, sereinement, de laisser les gens qui en avaient besoin bénéficier d'autres formes d'aide et c'était tant mieux. Et du coup, ça nous a permis aussi de repartir très vite. C'est-à-dire que dès que la possibilité s'est offerte d'ouvrir, même si on a annulé l'édition 2020, dès qu'on a pu faire des concerts en début juillet, à la fin du confinement et des jauges, enfin, l'ouverture des jauges et tout ça, on a vraiment mis le paquet pour que justement on relance avec ce qu'on avait comme comme argent public, on relance l'activité pour les musiciens, pour les prestataires, et pour donc on a fait un nombre incalculable de petits concerts, petites choses, particulièrement en soutien aux musiciens et aux acteurs locaux, puisque l'argent qu'on donne, c'est de l'argent local. Et du coup, on se retrouve à faire plus de 60 concerts dans l'été, ce qui n'est jamais arrivé, même si c'était des petites choses. Voilà. Et 2021 est reparti avec la même incertitude, mais avec le même esprit de soutien. Et là, on a relancé un festival plutôt dans une forme, on va dire, normale, hein, puisque même s'il y avait énormément d'autres problèmes avec le pass sanitaire, avec l'interdiction de voyager pour les artistes internationaux, enfin plein de choses comme ça, les jauges qui étaient limitées, enfin bon. Mais quand même, on a fait un festival qui était dans l'ordre de ce qu'on fait habituellement. Voilà. Et du coup, on se retrouve dans un équilibre qui n'est pas un équilibre flamboyant, mais qui est un équilibre solide et humble, et surtout qui permet de continuer à voir le jour et d'aborder les autres incertitudes de 2022 avec au moins de la sérénité.
Merci Hugues pour ces précisions. On a brièvement évoqué les musiciens. J'aimerais qu'on passe un peu de temps sur Marseille et sa scène musicale. Le festival est à Marseille, mais Marseille est plus connue peut-être, en tout cas chez le grand public et chez les jeunes, sa scène peut-être de rap ou de musique urbaine. Comment se passe l'ancrage du festival à Marseille avec ces scènes-là? Est-ce qu'il y a des échanges organisés, possibles, envisagés avec cette scène-là? Est-ce que c'est des choses qui donnent une couleur particulière au festival?
Alors d'abord, je pense qu'il y a une scène marseillaise de jazz qui existe, hein, et qui existe depuis très longtemps et que je pense sans aucune prétention, mais avec beaucoup de fierté, on a réussi à travers les 20 ans de festival à continuer de faire vivre, grandir et avec des espaces d'expression pour les artistes qui sont venus et qui viennent parfois de l'étranger à Marseille. Et le travail qu'on fait avec maintenant le Conservatoire de Marseille et son nouveau directeur, qui est un jazzman, c'est aussi une nouvelle évolution de l'animation de cette scène marseillaise et de la créativité de la jeunesse marseillaise. Alors, avant d'aller sur les scènes marseillaises de rap ou d'électro, je voulais juste dire que la scène jazz à Marseille, mais en ce moment dans le monde, est très très créative, très nouvelle, très vivante, et elle est porteuse d'un message très fort de musique live, parce que le jazz c'est d'abord ça, c'est de la musique live et c'est de l'improvisation. Ce sont pas des machines qu'on fait jouer, mais ce sont des musiciens qui apprennent leurs instruments et qui jouent ensemble. Et cet endroit-là de la musique est très vivant, très créatif. Et nous, on en est un des témoins et puis des soutiens aussi. Parce donc le festival se veut sur le portrait de cette scène jeune, créative. Ça. Effectivement, alors il y a un rapport avec la jeunesse qui est à redéfinir un peu dans le jazz. Parce qu'on n'a pas toujours le public aussi jeune que les musiciens qui sont sur scène. Voilà, mais c'est en train de se transformer et dans le bon sens. Et c'est en train de se transformer parce que justement le jazz, comme il a toujours fait dans toutes les époques, va à la rencontre, travaille sur la mixité, travaille sur la diversité, travaille sur les échanges, le partage, et donc il rencontre effectivement la scène hip-hop, la scène électro et les scènes des musiques du monde. Et ça donne des formes hybrides, on va dire, qui sont tout à fait porteuses d'un avenir incroyable. Enfin, moi, je suis persuadé que ce sera l'avenir là-dessus. Alors, à Marseille, il y a encore les rencontres se font, mais elles ne sont pas encore catalysées autour de quelque chose. Je pense que le futur est très proche, d'ailleurs, va faire ça. Et Marseille va devenir une place certainement les plus créatives de la rencontre entre le jazz et le rap, je pense. Je travaille là-dessus moi, mais je vois que beaucoup de mes camarades aussi commencent à chercher dans ce sens-là, et c'est peut-être pas impossible que dans une petite dizaine d'années, de la même manière qu'il y a eu l'émergence de tout ce qui est IAM, La Fonky, et Massilia, et toutes ces groupes, ces tendances-là qui sont nées à Marseille, il se peut très bien que Marseille devienne le lieu le plus vivant et vivace de la rencontre entre le rap, le hip-hop ou le spoken word et le jazz. Moi, je suis prêt à faire le pari. En tout cas, je vais participer à ça. Et puis là, l'électro, c'est même pas besoin que ce soit nous, ça se fait pas mal. Il y a beaucoup de recherches dans le jazz. Alors, ce sera pas la techno, mais l'introduction des machines, l'introduction des. Donc voilà, c'est en permanence des sons, la recherche des sons, la recherche des rythmes, et qui fait que là aussi, ben, y a, enfin, il y a déjà une rencontre très 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 propre à Marseille autour de ça. Mais je crois aussi que c'est le rap et l'électro, c'est comme ça qui commence à s'ouvrir aussi à se dire non, mais en fait, c'est bien d'avoir des musiciens qui jouent vraiment, quoi, pas simplement des boîtes à rythme ou des synthétiseurs ou des ordinateurs, mais des musiciens qui soufflent et des batteurs qui tapent. Et il y a des batteurs là maintenant qui sortent, enfin, quand on écoute, c'est un rythme fait par un humain, mais sur des modèles de boîtes à rythme ou de séquences de synthé, et ça c'est formidable aussi, quoi, ce rapprochement fort mais fécond. Je pense que c'est très très fécond.
Merci Hugues, mais vous prêchez un convaincu, hein, puisque moi j'adore la musique live, la musique de concert. On a cité le nom du directeur du Conservatoire de Marseille, Raphaël Imbert, qui est un grand musicien de jazz, vous l'avez dit, un grand saxophoniste. Ça change quoi une figure comme Raphaël Imbert à la tête d'une institution comme le Conservatoire de Marseille pour les relations que vous entretenez?
Entre lui et moi?
Oui, entre le conservatoire et le festival, entre lui et vous, oui.
Ben, entre lui et moi, on est amis. On est amis depuis très longtemps, même avant que je sois au festival, avant que le festival se crée en 2000 et avant que lui ne soit, bien sûr, même. Enfin voilà. Et il a quand même créé sa compagnie, donc Nine Spirit, l'année de la naissance du festival, et il a été sur la scène du festival à la première édition avec la première année de sa compagnie Nine Spirit. Donc c'est un genre de voyage même pas parallèle, en commun, quoi, où on partage en permanence l'avancée. Chacun, moi je suis pas musicien du tout, hein, je réclame pas du tout ça, mais il a sa carrière. Et enfin, il revient au festival, c'est un des supports, on est allé ensemble, enfin, je l'ai accompagné dans le dispositif qu'on mène avec le French Quarter à New York. Il est venu présenter son travail au Winter Jazz Festival grâce au Festival Marseille Jazz des 5 continents. Et ça lui a permis de rayonner dessus. Et en échange, lui, il nous a donné beaucoup des premières qu'il a fait, notamment sa rencontre avec Eric Bim. C'était un des moments très forts du festival 2019. Il y a plein de choses comme ça. Il y a ce parrainage, enfin, cette proximité, cet échange permanent entre le festival et Raphaël, entre moi et Raphaël, donc en fait on est amis. Et là maintenant, l'ouverture qu'il offre au jazz à travers, et puis même je pense au-delà, mais c'est pas mon secteur donc j'en parlerai pas, mais l'ouverture qu'il donne au jazz à travers sa position de directeur du conservatoire, ce qui est une première, hein, qu'un jazzman comme ça soit directeur d'un conservatoire national supérieur, c'est quand même très fort. Et il a tout de suite donné une couleur, une ouverture. Je pense que à l'intérieur du conservatoire, que ce soit les élèves, les profs, les parents, tout le monde a vu le changement. Et d'un coup, c'est énorme, quoi, qu'un festival comme le nôtre puisse avoir un lien avec une classe qui est la plus ancienne classe de jazz de France, faut le savoir. Et donc, du coup, de faire vraiment le lien entre l'apprentissage et la professionnalisation, en fait, c'est un bonheur, quoi, de travailler là-dessus. Et pour nous aussi, puisqu'il nous a invités à fêter le bicentenaire du conservatoire dans une nuit du jazz en novembre dernier, où on a ouvert les portes du conservatoire, on a investi toutes les salles avec des jazzmans, avec justement les musiciens de la classe, dans tous les formats, des artistes nationaux et internationaux. Raphaël avait fait venir France Musique, qui a couvert 3 jours avec des émissions en direct, et tout ça, c'était formidable. C'est une expérience unique, et du coup, voilà, ce compagnonnage intime, et source de d'un très bel avenir, quoi. Je veux dire, moi je vois les belles perspectives que ça ouvre, voilà, et on travaille à ça en permanence, mais dans une grande appétit, un grand enthousiasme.
Merci beaucoup Hugues, j'avais tout un tas d'autres questions à vous poser, mais j'aurai l'occasion de vous les reposer. Non, pas du tout, c'était passionnant. J'adore le jazz, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter. Malheureusement, merci. L'émission touche à sa fin. Donc, je voulais juste vous rappeler, chers auditeurs, que nous avons eu le bonheur et le grand plaisir d'avoir un entretien avec Hugues Kiefer, le directeur, le programmateur du festival Jazz Marseille des 5 continents, qui sera ouvert au public dès le 7 juillet prochain et pendant 15 jours, mais qui a une programmation qui démarre dès le mois de juin en réalité. Et je vous invite à aller sur le site du festival, dont la programmation cette année est remarquable. Merci beaucoup, Hugues.
Merci à vous et merci à tous.
Chers auditeurs, Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site radio-cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission et un nouveau grain de causette.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.